Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, eh ben, un Silence on Joue un peu particulier, parce que, bah oui, ça n'arrive pas tous les jours. Il y a une console qui sort cette semaine. On en a déjà parlé un peu ici, mais bah voilà, elle est sortie, elle est là. En tout cas, on l'a et vous n'allez pas tarder à la voir si vous la voulez. En tout cas, c'est la 3DS. On va parler de la console et on va parler des jeux, du line-up, donc des jeux qui accompagnent la sortie de la console de Nintendo. Et puis voilà, bah, je pense que ça va faire un petit programme. Donc voilà, si vous aimez pas la 3DS, bah attends, on se retrouve la semaine prochaine. Je commence en accueillant mes deux chroniqueurs préférés, deux de mes chroniqueurs préférés, pardon. Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément.
Bonjour Erwan.
Et Patrick Helio de Eurogamer.fr. De Eurogamer.fr. Bonjour
fait.
Patrick.
Bonjour Erwan.
On commence avec toi Clément, et tu veux nous parler d'une date de sortie, je
oui,
crois.
Oui, d'un jeu que j'aime particulièrement, qui est peu connu pour le moment, qui s'appelle World of Tanks. Voilà, donc
c'est ni Warcraft ni Goo.
Exactement, World of Tanks, c'est une sorte de MMO free to play. En fait, c'est un jeu de tank, de tactique, de combat qui est extrêmement simple à prendre en main, très tactique, moi que j'aime beaucoup, qui est actuellement en open bêta. Donc tapez World of Tanks dans Google ou autre et vous allez pouvoir vous inscrire et jouer à ce jeu. C'est des très courtes parties de 5-10 minutes et avec ça on gagne de l'expérience et on débloque de nouveaux types de tanks, etc., etc. Et donc ce jeu que moi j'aime particulièrement va sortir le 12 avril prochain en Europe et aux États-Unis. Et voilà, donc vous pouvez jouer, sachant que tout va être wipé, tout va être effacé.
D'accord.
Avant le lancement. Oui. Voilà, donc c'est un jeu auquel j'espère pouvoir jouer avec quelques-uns de nos auditeurs.
Eh bien, pourquoi pas. C'est quoi ton pseudo?
Je sais plus, je crois que c'est Ragal, tout bêtement. Voilà.
Patrick, donc le premier GTA.
Eh oui, chers amis, aujourd'hui, moi, je vous propose on va faire une étude un peu génétique d'une œuvre marquante dans le jeu vidéo.
Alors, je te précise que c'est une news d'introduction.
Ah, hein, dommage,
on n'a pas 40 minutes non plus.
C'est bien dommage. Une info intéressante, j'ai trouvé ça sur le site Eurogamer, évidemment. Je vous invite à aller voir la news correspondante au sujet, en fait, d'infos qui viennent de sortir sur la conception du premier GTA. Rappelez-vous, ouais. C'était en 96 maintenant.
Qui était en 2D, vu
de dessus. Etc. Ouais. On sait que c'est toujours intéressant de voir comment a été bâti le projet et de voir les pistes qui ont été envisagées ou pas et qui ont été... et le jeu final qu'on connaît bien maintenant. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que le jeu était prévu à la base dans les premiers fichiers qui ont été préparés pour le jeu, donc sur PC, sur PlayStation, mais aussi sur Saturn et sur l'Ultra 64. L'Ultra 64, évidemment.
La N64.
Que l'on connaît bien aujourd'hui. Le titre de ce projet, c'était à la base Race and Chase. Voilà, donc par rapport à GTA, donc on sent déjà une rupture au niveau du titre. Alors, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des choses vraiment communes avec ce qu'on a connu au final. Dans le pitch, notamment. Alors, je reprends le pitch qui est en anglais. Je vais essayer de vous le traduire à la volée. Donc, les joueurs vont être capables de conduire des voitures et différents véhicules comme des bateaux, des hélicoptères. Les véhicules pourront être volés, abîmés, et on devra naviguer sur une énorme map, sur une carte énorme. Donc, ça, c'était déjà, Et déjà, le principe du jeu, il sera possible aux joueurs de sortir de leur voiture pour en voler une autre. Donc voilà, déjà, les racines du gameplay concept, sont là. Ouais. Et voilà, on devra à certains moments contrôler une personne à pied qui sera plus vulnérable. Voilà, donc déjà, ça, ce sont les principes de base. Trois modes de jeu différents ont été prévus. Cannonball Run, donc une course en ville, visiblement. Destruction Derby, qui parle de lui-même, qui était dans l'air du temps à l'époque, visiblement. Et Bank Robbery, qui en fait consistait à faire des casses de banque.
Et donc, à se barrer en courant et à fuir la police.
Et voilà, donc là, on retrouve déjà les mécaniques qu'on a bien connues dans le jeu. Et le pitch dit aussi qu'une fois que les crimes étaient terminés sur une ville, hop, le joueur devait passer sur une ville suivante. Donc d'accord. Voilà, déjà ce principe qu'on a connu dans le jeu final de quartier qu'on termine et qu'on passe ensuite à autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'une note est faite dans le texte sur une allusion à SimCity pour la représentation de la ville. C'était les canons
c'est vrai
de l'époque.
Que ça ressemble un peu le premier GTA.
On rappelle, hein, oui, c'est vu dessus. Là, ça n'a la 3D.
La 2D,
attention, GTA 3.
C'est rigolo pour les joueurs qui voudront le pratiquer sur un PC en SVGA. Attention, il faudra prévoir une configuration costaud à base de Pentium. Voilà, donc ça situe déjà tout de suite. En revanche, au niveau des différences notables, moi j'ai noté qu'il était prévu que parmi les gens dans la rue, on trouverait des écoliers et des chiens. Ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a jamais eu dans un GTA, je crois pas.
Oui,
enfin,
parce
dans
que
le,
alors,
ça a été
l'option d'écraser. Hein, donc,
il devait faire partie des personnages se baladant comme ça dans l'univers. Et voilà. Donc on sait ensuite que je crois que ce projet a été déposé en 95 et le jeu final est sorti. Donc, je crois en un an après. Donc voilà, c'est intéressant de se replonger un petit peu dans cette évolution.
Mais c'est assez rigolo
du concept,
parce qu'on a bien senti avec le premier GTA qu'on partait sur un jeu de bagnole avant tout.
Sur le premier, oui, sur les premiers en 2D.
C'était un jeu de bagnole un peu avancé où on peut sortir de la voiture et se balader. Mais la base, Grand Theft Auto, c'est la voiture qui est au centre.
Bien sûr.
Et c'est vrai qu'avec la série, notamment avec GTA 3, mais encore plus avec Vice City qui lance l'aspect cinématographique de la série
l'aspect
des GTA.
L'aspect aventure.
Et avec GTA 4, évidemment, on sort complètement. Les voitures sont toujours là, mais ne sont pour le coup qu'un moyen de transport parmi d'autres.
Important, mais... Ouais. Et surtout, ce qui a fait le succès de la formule GTA, c'est l'implication des différents gameplays. Ouais. En fait, tout ça est relié dans la même expérience, alors que sur ce projet, on voit qu'il y a une différence avec des sessions de jeu différentes, enfin plutôt des sections de jeu bien marquées. Et voilà, ce qui a fait aussi le succès, c'est que tout ça est imbriqué au final dans une même expérience de jeu. Donc c'est assez rigolo, voilà, allez voir sur Eurogamer, il y a le lien vers les pages
initiales,
du projet, donc c'est intéressant.
Alors avant d'arriver au com des com, oui, moi j'ai mon petit truc aussi à dire, mais parce que je pouvais pas en parler à l'intérieur vraiment d'une émission, mais vu que j'en ai déjà parlé ici, j'ai testé BJ Well 3, donc de PopCap, je suis un grand passionné de BJ Well 2, comme vous le savez si vous suivez un petit peu. En fait, le truc, c'est que j'ai mis très très longtemps à me mettre à BJ Well 3 pour la simple et bonne raison que c'est le jeu le plus laid de l'univers. C'est un truc, c'est kitsch à un point qui dépasse l'entendement. Et
c'est un peu la marque de fabrique. Ça n'a jamais été, enfin, PopCap, les
Oh bah, il y a Plantes versus Zombies, quand même.
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai que les Peggles sont un peu colorés, machin. Mais là, vraiment, on tape dans la faute de goût, BJ Well 2-3, c'est assez choquant. Alors, on arrive à supporter la chose en coupant et la musique et les voix. Que la musique et les voix, ça va au-delà. Déjà, on a un choc visuel, mais en plus, si on a le choc musical et alors les voix qui te disent êtes-vous prêt, partez, excellent, machin, c'est insupportable, on ne peut pas supporter. Alors il y a des modes de jeu, il y a plein de modes de jeu différents qui sont à peu près tous pas très intéressants. C'est vous connaissez, hein, c'est l'alignement de gemmes, c'est très
et
classique
pour faire des combos,
pour faire des combos, ouais. Et des choses en cascade. Il y a plusieurs modes qui sont plutôt rigolos finalement. Enfin, quand une fois qu'on dépasse, hein, donc le choc visuel, il y a plusieurs modes qui sont assez sympathiques à jouer. Bon, c'est pas un jeu très cher, hein, donc je crois que c'est à moins de 10 $, à moins de 10 €, sur Steam, et puis à télécharger directement si on le veut. Et en fait, moi, alors le seul truc, c'est que il manque le mode de jeu capital, qui était dans BGWL 2, qui est le mode de jeu action. Alors je vais pas prendre beaucoup de temps, mais il y a quand même un truc.
Oui,
j'ai
parce qu'on te rappelle que c'est une news d'intro quand même.
Oui, je sais. Mais pour rappel, le mode classique de BJ Weld est hyper frustrant parce qu'en fait, il s'arrête quand il n'y a plus de combinaisons possibles. Or, on n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y ait plus de combinaisons. C'est le jeu qui décide des gemmes qui tombent et puis à un moment, comme un con, on se retrouve plus de combinaisons, paf, game over. Donc il y a aucun skill, aucun. Ouais. On est innocent dans l'histoire et on ressent une profonde injustice. Et donc dans BJ Weld 2, il y avait le mode action qui s'assurait qu'il y ait toujours au moins une combinaison possible, mais on avait de moins en moins de temps pour les faire. Et donc en fait c'est ça qui donnait l'aspect rigolo, c'est le jeu s'accélérait, et jusqu'au moment où on ne trouvait pas la combinaison présente dans la grille et on perdait, mais c'était de sa faute. Ouais. Et alors là, bizarrement, BJ Weld 3, il n'y a plus tout ce mode-là.
Est-ce qu'il y a sur ce type de jeu qui est, parce que les fondamentaux sont exactement les mêmes, est-ce qu'il y a un intérêt du coup à passer du 2 au 3? Je veux dire, est-ce qu'il y a...
Alors pour ma part, non.
D'accord.
Non, voilà. C'est aucun. Sauf si on veut tester les modes quête et aventure qui.
Mais c'est comme un Tetris ou un
intérêt.
Tetris 2. Si le concept est le même, si les pièces sont
mais
les mêmes.
Il n'y a jamais eu de Tetris.
Voilà, exactement. Il y a eu un Tetris 3D.
Il n'y a jamais eu de Tetris 2. Exactement.
Ouais, c'est
je pense que BJ Weld, parce que le premier BJ Weld avait des faiblesses. BJ Weld 2, voilà, c'est la version définitive. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Voilà. C'était une grosse news intro. Pardon.
Après, Tetris avait évolué aussi. Une version 3D, tout à fait. Enfin, il y a aussi des évolutions
qui
peuvent se faire.
Mais oui, mais on joue à quoi maintenant? On joue pas à la version 3D. Enfin, personne ne joue à cette version 3D.
Patrick a peut-être un collector dans sa cave.
Le com des coms de la semaine dernière, au sujet de Kirby au fil de l'aventure, le mix entre la grande facilité. Ah oui, c'est Hippo qui en parle. Le mix entre la grande facilité du titre et son univers artistique très mignon est bel et bien synonyme d'accessibilité. J'ai entendu parler ici d'accessibilité à un public nouveau joueur ou non joueur, en citant notamment sa petite amie ou sa compagne, par exemple. Pour ma part, j'en ai fait l'expérience du jeu en coopératif avec mon petit garçon de 4 ans et demi. Nous avons fait le jeu intégralement, en plusieurs sessions bien entendu, et je dois dire qu'il est parfaitement calibré, même dès le plus jeune âge. Et donc il explique qu'il faut un petit peu d'apprentissage, mais il a réussi et il a adoré jouer avec son fils de 4 ans à Kirby au fil de l'aventure, donc tu avais bien vu là-dessus. Cytoplasme qui n'est pas content. Voilà, il n'est pas content, Cytoplasme. J'aime bien faire parler les râleurs un peu de temps en temps. Râleurs en toute amitié, hein. Elle n'en finissait pas cette minute culturelle. Souvenez-vous, 45 questions. Au bout d'un moment, j'ai carrément sauté jusqu'à la séquence suivante. Revenez aux fondamentaux, les gars. C'est un podcast sur l'actu du jeu vidéo, pas un Trivial Poursuite entre potes. Mais ouais. c'est là, cher Cytoplasme, où tu te plantes. C'est que, en fait, silence on joue depuis le départ. C'est peut-être pour ça que ça continue depuis bientôt 4 ans entièrement. Ouais, c'est un podcast sur le jeu vidéo, mais entre potes. Donc, faut bien faire des concessions parfois. C'est vrai, quoi. Et enfin, Chut, bah oui, c'est son pseudo. Sur Ghost Trick, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Patrick. Hein, voilà. Il fallait le dire.
Des choses qui arrivent. Hein, ouais.
Le scénario a pas mal de retournements, certes, mais surtout, tout se tient de bout en bout. Ce sont de bons retournements, pas des trucs sans queue ni tête. C'est un peu comme un Phoenix Wright Trial and Tribulation, mais uniquement avec un scénario principal où tout est lié et qui se renouvelle juste ce qu'il faut à chaque chapitre. Parce qu'en fait, toi, tu disais que c'était peut-être un peu répétitif, et là, il n'est pas d'accord.
Ah, je suis encore dessus, hein, je l'ai pas fini. Je suis encore en train d'avancer.
C'était la question.
Et alors, plus j'y joue, et plus je trouve le principe génial d'être limité en ses actions aux objets qu'on peut posséder. Et enfin, plus on avance, et plus je trouve que le principe est vraiment, vraiment
super. Alors, j'ai lu dans les forums que ce serait pas, justement, que plus tard, il y avait un autre possible.
Il y avait
ça sera la surprise pour toi, Patrick.
Plus tard,
dans le jeu, dans
ah
le
oui,
jeu,
d'accord.
Il y a pas que
il y a une évolu- y a des voilà, évolutions alors. De gameplay. Bon. Et ben on attendra. Et puis moi il faut que j'y joue.
Hein, idem.
Ouais, j'ai avoir le temps. Ouais, bah on va quand même peut-être pas mettre 45 secondes de Chioki aboie non plus. Alors, vous l'avez reconnu, Nintendogs, en tout cas, là, c'est la version avec du relief. Donc, c'est Nintendogs plus 4. Ça fait partie de la line-up de la 3DS, mais parlons de la console pour commencer.
Vous
l'avez tous eu dans les mains, vous l'avez tous là, non? Patrick l'a oublié, mais c'est pas grave, il l'a essayé longuement. Alors, cette console, qu'est-ce que vous en avez pensé, Clément?
Alors, ce qui est rigolo, c'est que nous, on a un peu plus de recul que vous, cher auditeur, qui allez, si vous l'achetez, c'est que nous, on l'a déjà vu il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'en avais parlé, j'avais eu ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le wow factor. C'est qu'on regarde, on fait wow, voilà. Donc, pour la 3D, qui est donc la 3D relief, la première fois que je l'ai vu, je m'en rappelle très bien, ça m'avait surpris agréablement, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Et maintenant que je l'ai en main et que je l'ai vu plusieurs fois déjà à Amsterdam, entre autres, etc. Maintenant, je trouve ça, par rapport aux jeux auxquels j'ai pu jouer, je le répète, un peu gadget. C'est-à-dire que moi, les jeux que j'ai aimés auxquels j'ai joué sur 3DS, j'ai pas eu tous les jeux, hein, j'ai pas eu Kid Icarus et plein de jeux de qualité probablement.
Ouais, je pense que
j'ai enlevé la 3D parce que. Notamment par exemple sur Nintendogs, qui est un jeu sympathique où on joue avec des petits chiots, etc. On en reparlera probablement après. Moi, j'ai trouvé la console un peu décevante. Elle apporte pas grand-chose, il y a peu d'autonomie. On sent qu'elle a plus de puissance, qui permet de nouveaux jeux qu'on n'avait pas sur DS. Mais l'évolution est limitée. Alors il y a les Street Pass, il y a beaucoup de.
Ah oui, on va peut-être parler aussi de ça. C'est-à-dire que, alors le truc, c'est que la presse a eu accès à la console avant d'avoir accès au jeu. Donc c'est vrai qu'on a eu la console à poil pendant une ou deux semaines. Donc ce qui nous a permis de tester un peu les fonctionnalités au-delà des jeux vidéo. Patrick, quand il y a des choses qui t'ont plu dans ces nouvelles fonctionnalités, ces choses qui arrivent.
Ouais, surtout, j'attendais vraiment les jeux. C'était vraiment les jeux que je voulais tester. Je pense que les fonctionnalités, elles sont pas toutes actives. Je crois qu'on peut pas se connecter encore vraiment au web. Enfin, il y a pas mal de choses.
Il y a les photos 3D qui sont rigolotes.
Les photos 3D, voilà.
Un capteur de merde, quand même, faut le dire. Franchement.
300 000 pixels, je crois.
Ouais, 300 000 pixels.
Aberrant d'avoir fait un appareil photo de qualité aussi à chier, quoi. Franchement.
Oui, c'est un gros souci, quoi. Parce que, effectivement,
je pense que c'est une question de prix aussi. Je pense qu'un objectif de 10 millions aujourd'hui, comme c'est la norme sur les
10 millions, tu fais
sur les machines vraiment dédiées.
Là, il faut voir qu'on a une définition en nombre de pixels qui nous fait revenir. Alors moi, ça devait être mon premier appareil photo numérique et donc on devait être en 96. Mm-hmm. Donc en fait, on a quand même 96-97. On a une définition qui a 15 ans de retard.
Moi, à la limite, j'ai envie de dire. Enfin, moi, l'appareil photo, c'était.
Oui, mais c'est gênant.
Pas ce que j'attendais le plus.
Oui, mais c'est gênant pour moi pour. Une des capacités et certains jeux qui vont arriver sur Nintendo 3DS, c'est les jeux en réalité augmentée.
Yep. Mmh.
Les jeux en réalité augmentée, j'attendais vraiment le plus. Le problème, c'est que quand on filme vraiment la carte qui est fournie avec, parce qu'il y a quelques petites cartes qui sont fournies avec la 3DS, donc on filme cette carte et il y a un Mario qui sort par exemple.
Il y a un mini-jeu réalité augmentée qui est intégré avec la 3DS.
Hein. Et quand on voit que la vidéo derrière est pas fluide, et qu'elle a beaucoup de grains, qu'elle est pas claire, pour nous c'est pas de la réalité. Donc le principe de réalité augmentée est totalement biaisé par ces capteurs-là. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un appareil photo, même si c'est rigolo de faire les photos 3D, mais c'est vraiment dommage parce que pour moi tout ce qui est réalité augmentée, du coup, l'intérêt est vraiment limité.
J'aimerais juste aussi revenir sur cette histoire de capteur. C'est pas primordial. Je suis entièrement d'accord. Sauf que en fait, c'est vraiment très très dommage parce que l'effet 3D, la 3D relief, qui est quand même la principale nouveauté de cette console, nécessite une image fine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les jeux et tout ça. Dès qu'on est sur du flou, dès qu'on est sur un glitch
un peu grossier,
du jeu qui passe devant, qui brouille le truc. C'est gênant. C'est vraiment gênant visuellement. Et en fait, le souci avec ce capteur photo, c'est que les photos 3D, c'est très rigolo. Mais alors, je vous conseille de ne garder dans votre bibliothèque de photos que les photos prises à l'extérieur par temps de soleil. C'est-à-dire, parce que dès que c'est un peu sombre, dès que les photos sont un peu floues et que vous passez 10 minutes à les regarder, par exemple, pour les montrer à vos amis et tout ça, et ben, je peux vous jurer que c'est effet mal de crâne ouais. Direct. Et donc là, c'est quand même un petit peu dommage d'avoir incorporé un contre-exemple comme ça à l'intérieur du jeu.
Par contre, après, les il y a certaines fonctionnalités qui sont peu mises en avant par Nintendo ou peu mises en avant quand on va dans les magasins et qu'on veut la précommander. Moi, j'ai fait le test. Par exemple, personne, quand j'ai voulu voir comment marchait une réservation, personne parle du Street Pass. Un exemple, ou des capacités sans fil qui sont assez intéressantes.
Mais je pense que ça vient dans un deuxième temps. Je pense que voilà.
Bien sûr.
La priorité a été donnée à la 3D. Moi, j'ai été plutôt surpris dans le bon sens. C'est-à-dire que je craignais un peu le. On a beaucoup craint sur le confort de jeu, etc. Moi, j'ai enchaîné pas mal d'heures de jeu. Bah, j'ai testé tous les titres qui sont arrivés depuis la semaine dernière. Et à aucun moment, j'ai eu de problème oculaire. Alors que j'aurais pu aussi. Et en fait, non. Et je trouve au contraire que.
Toi, t'as jamais mal au crâne, toi.
Non. J'ai vraiment pas. Le seul truc que j'ai vu, c'était sur la réalité augmentée. J'ai eu un moment une espèce de mal de cœur un peu, mais c'est encore une fois c'est vraiment pas la fonction qui m'a le plus intéressé. Moi, c'était vraiment les jeux que j'attendais de voir, et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un apport sur le côté sensation, sur le côté perspective sur les jeux. J'ai trouvé que c'était vraiment sur le Splinter Cell, on reviendra après sur les jeux. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une expérience en plus, et je l'ai noté comme je disais tout à l'heure, je suis en train de finir Ghost Trick en parallèle, donc sur l'ancienne DS, et j'ai eu cette sensation de manque en allumant ce matin ma DS dans le métro
j'aurais voulu retrouver.
J'ai eu la sensation qu'il me manquait un truc, et je me suis dit mince, ça marche. C'est qu'il y a vraiment, j'ai eu l'impression d'un jeu un peu à plat au niveau graphique. Alors moi, je vous dis ça, je joue à des jeux qui ont 20-25 ans encore, donc ça me dérange pas outre mesure. Mais j'ai la sensation que Nintendo a réussi à créer cette attente maintenant sur le truc.
Mais comme tu le dis, ça, à mon avis, ça dépend grandement des jeux.
Ça dépend grandement des jeux. Il faut bien dire, je pense que c'est encore un peu tôt vraiment pour en parler. On est vraiment sur les premier jeu qui arrive, on sent qu'il y a beaucoup d'adaptations de jeux qui existaient déjà, le Splinter Cell, le Rayman, on attend encore, je pense qu'il faudra certainement, malheureusement, encore attendre le prochain Mario qui a été annoncé, qui lui sera certainement une des démos qui va nous montrer vraiment ce que peut amener la 3D dans le gameplay, dans la façon de concevoir un jeu. Moi, j'attends vraiment de voir ça. C'est
c'est quand même une des grosses nouveautés. Pardon de t'avoir coupé, mais on va revenir
c'est
sur les jeux.
Erwan,
je m'en excuse. Mais on va revenir sur les jeux un peu plus longuement. Et tu as parlé du Street Pass, qui est quand même la grande nouveauté hors relief et hors puissance de cette console. Alors le Street Pass, il faut garder donc le Wi-Fi activé sur sa console, et dès qu'on croise quelqu'un dans la rue, si les deux ont leur Wi-Fi et leur Street Pass activé, eh ben on s'échange les Mi. C'est-à-dire votre Mi se retrouve sur sa console et vous récupérez son Mi pour faire des petits jeux sans grand intérêt. Mais il y a cet effet magique. Ça m'est arrivé deux fois d'arriver chez moi alors que la 3DS n'est pas encore dans le commerce, et où je me suis rendu compte que j'avais probablement croisé un journaliste jeu vidéo ou quelqu'un de Nintendo dans le métro qui avait la 3DS, et en fait quand j'allume la 3DS le soir, il y a un certain Mehdi qui arrive sur ma console.
Il va peut-être se reconnaître d'ailleurs.
Et que je ne sais pas où je l'ai croisé. Ouais. Et donc il y a quand même un effet vraiment marrant, et encore j'ai pas essayé les modes Street Fighter, parce qu'il y a
sur les jeux sur PES de figurines, sur Street Fighter, on peut comparer.
Il y a des combats automatiques et on peut imaginer, moi c'est ce que j'imagine, et j'imagine plus tard des applications de rencontres, de drague, de trucs. Il y a plein de jeux comme ça qui pourront arriver, ou de
bien sûr,
affinité. Et non, c'est assez rigolo.
Il y a un truc aussi, c'est tout bête, mais le stick analogique qu'on n'avait pas sur la DSi, ça paraît anecdotique comme ça, mais ça change vraiment.
Ça change,
ça paraît un détail comme ça, mais c'est vrai quand on se lance dans le jeu, et je le trouve assez confortable, contrairement à d'autres machines qu'on a eu, genre la PSP. C'est vrai que le stick était vraiment pas facile et fatigant.
Il y a un seul stick, contrairement à la NGP.
Pour l'instant, on n'a qu'un seul stick, effectivement.
Dernier point, mais ça sera la conclusion. Voilà, c'est que, par exemple, quand on fait le Street Pass, il faut laisser son Wi-Fi activé. Et là, attendez-vous à remettre systématiquement le soir, en rentrant chez vous, la 3DS sur son socle. Ça ne durera pas plus d'un jour si vous jouez un petit peu.
En 3D activé, si on met tout activé, ça dure pas.
Et encore une fois, je pense, pour conclure, ce qui est, je pense, important, et ce qu'on n'a pas assez dit en général, c'est que la 3D, c'est bien, mais il y a vraiment un hardware qui a évolué au niveau graphique. au niveau du moteur et des capacités graphiques et sonores.
On va en parler dans les jeux, notamment.
Psycho Pressure. Here we go. One, two, strike.
Alors je pense qu'un son Street Fighter 4, ça doit être le huitième hein, qu'on passe dans Silence on joue. Donc là c'est le son, mais vous, ça n'a aucun intérêt de le préciser. C'est le son.
C'est marrant d'entendre les combats purs sans la musique en fait. D'ailleurs, ouais. Moi je suis habitué à entendre avec la musique de Street Fighter.
Et ben voilà, là c'était l'action pure.
L'action pure. Ouais.
Si vous avez fermé les yeux, vous l'avez vu en 3D relief avec rien que voilà, c'était un son en 3D relief, c'est beau. Bref. Donc les jeux côté Nintendo. Côté Nintendo, oui Patrick.
J'ai envie de rebondir sur le fait. Voilà, je parlais des capacités techniques du hardware de la console en dehors de la 3D, hein, si on la met de côté. Je pense que le Street Fighter c'est le jeu qui marque à ce niveau-là pour le lancement au niveau de la réalisation. Où on se rend compte qu'on n'est plus du tout devant une DS.
Ouais, on est très proche du rendu du jeu sur Xbox. C'est assez.
J'en attendais pas. Franchement, ouais, le je trouve qu'il est assez impressionnant au niveau de la réalisation du gameplay. Je trouve qu'il fonctionne bien avec la croix. Moi, je joue plutôt que la croix à l'ancienne. Enfin, je sais pas toi, Clément.
Moi, je joue avec le nouveau
l'analogique.
Stick. Et aussi, on en parlait à la crêperie avec Erwan. L'avantage
on avait dit de pas. Enfin bon.
L'avantage du Street Fighter, c'est que voilà, il y a aussi un raccourci en bas tactile.
Oui, le light, version light le gameplay light, c'est ça. Hein,
voilà,
on peut actionner
les
coups spéciaux.
Et ce qui est extrêmement pratique pour les personnes qui ont aucun skill et qui sont un peu nuls, comme Erwan présent.
Moi ça m'a réconcilié avec Street Fighter 4. C'est vrai que moi j'ai un gros souci, je suis un gros noob en versus fighting classique et par exemple j'ai beaucoup de mal à apprendre les combos, les coups spéciaux, ce genre de choses, et c'est vrai que du coup ça m'a vachement pénalisé sur l'aspect tactique du jeu, parce que c'est vrai que Street Fighter, les Street Fighter, c'est quand même des jeux tactiques parés, contre-attaqués.
Ça dépend avec qui tu joues aussi.
Oui, ça dépend avec qui tu joues. Mais à partir du moment où t'as quand même un tout petit peu envie de t'améliorer, t'as intérêt d'être tactique. Et moi, j'étais tellement concentré à essayer de sortir mes saloperies de Hadoken que je me prenais tout dans la gueule. C'était fini. Et donc maintenant, avec ces raccourcis et je n'avais jamais réussi à sortir un ultra. C'était un drame.
Et là, ça, Capcom a eu la bonne idée de rajouter.
Avec cette version-là, j'ai l'impression de pouvoir commencer à pouvoir me concentrer sur le tactique, apprendre à jouer et à sortir
l'impression de voir tourner les versions next gen. C'est ça qui est une vraie claque.
Alors justement, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est vraiment le jeu emblématique, qu'il prouve qu'on peut avoir des jeux qui sont pas des jeux qu'on peut avoir sur DS. Donc là, il y a vraiment des jeux en termes de puissance qui n'existe pas.
On a l'impression d'être passé d'une génération à l'autre.
Par contre, moi, c'est sur ce jeu, l'effet relief. Franchement,
mais on sent que c'est pas un jeu du tout qui a été construit pour ça.
Il y a une vue un peu vue de dessus, enfin de derrière l'épaule,
qui est un peu gadget, mais on joue pas avec.
C'est un jeu qui prouve bien la problématique du lancement de la 3DS, donc une meilleure console en termes de puissance avec des jeux de qualité, mais il faut des jeux qui soient adaptés. Le gameplay a été pensé pour la 3D. Ouais.
Eh bien oui, mais alors là, est-ce qu'on n'arrive pas à un problème? C'est qu'il n'y en a pas.
Et c'est pour
on va en faire attention. Alors, il n'y a pas de gameplay prévu pour le 3D.
Erwan, je vais t'en donner un.
Donne-moi un.
Et après, moi, c'est quasiment le seul jeu auquel j'aurais joué vraiment loin, large, en travers. Donc, je vous laisserai la parole. Mais c'est le Nintendogs. C'est que le Nintendogs, c'est clairement un jeu, donc le gameplay existait avant, mais où quand tu vois ton petit chien en 3D qui te lappe gentiment le bout du doigt, ça apporte un plus et on voit maintenant le problème, et ça prouve vraiment d'un côté aussi ce que tu dis, c'est que ça apporte vraiment une immersion rigolote, parce qu'on joue vraiment avec des petites peluches, hein, des petites peluches qui nous viennent dans les mains, donc ça c'est rigolo. Maintenant, c'est typiquement le jeu, en tout cas moi quand j'ai joué avec ma copine, c'est un jeu sur lequel on a envie de partager et de montrer. On dit tiens, regarde le chien, regarde le chat, regarde comme je le câline, regarde ce qu'il fait. Et le problème c'est que la 3DS, elle n'est faite que pour le joueur qui est pile en face. C'est-à-dire que la personne qui regarde de côté, elle ne voit rien. Limite, elle voit un truc qui ressemble à rien et qui fait mal au crâne. Donc, c'est tout le problème. C'est que ce jeu, moi, maintenant, j'y joue. On y joue sans 3D. Donc, ce qui est un peu paradoxal.
Alors, moi, sur Nintendogs, auquel j'ai joué aussi, parce que j'avais bien aimé la première version DS. Et là, je suis désolé. Oui, on gagne la 3D. Alors, ça va peut-être sembler complètement dérisoire. Là, on parle d'un jeu de gestion de petits chiens et de petits chats, hein, je sais. Mais sur l'intérêt, on perd l'interaction directe avec l'animal. C'est-à-dire que Nintendogs, c'était aussi une démo de la DS originale pour montrer l'intérêt du tactile et du stylet. Et si vous vous rappelez, quand on appelait le petit chien, il apparaissait sur l'écran tactile. Quand on le caressait, on caressait directement le petit chien. Et tandis que là, vu que le 3D relief est sur l'écran du haut, quand on interagit avec le stylet, on interagit sur l'ombre du chien, et on voit ce qu'on fait. Et donc, on crée une distance de contrôle pour avoir la réalité de l'image. Et donc, finalement, et c'est même remarque pour un titre d'Ubisoft qui est Shadow Wars, Ghost Recon Shadow Wars, qui est pas un mauvais jeu. C'est un jeu de tactique tour à tour, on contrôle des militaires, on choisit il y a un nombre de déplacements, du tir, etc. C'est hyper classique, c'est très très bien fait. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, on a l'écran 3D qui est utilisé. Alors on a une vue de dessus avec une jolie 3D. Là, c'est un peu ce que tu disais, c'est le genre de truc qui manquerait si on l'avait pas, mais finalement une fois qu'on l'a vu, mais finalement qui est absolument inutile. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? On a un jeu de 3D de tactique, militaire tactique, et on est obligé de les contrôler grâce au pavé directionnel, à la croix directionnelle, pardon. C'est-à-dire que
alors que tout l'intérêt,
rappelez-vous, Advance Wars, tout l'intérêt d'un jeu tactique militaire en tour par tour, c'est de contrôler directement au stylet. Donc là, on se retrouve à contrôler sur une console tactile des mecs avec le bouton A et la croix directionnelle.
Mais c'est très juste, même si
c'est joli, je suis désolé, c'est complètement aberrant en termes de gameplay. Et moi, c'est ma critique générale, en tout cas sur les jeux, c'est que on se retrouve à avoir des jeux qui s'imposent la 3D relief, qui imposent la 3D relief, mais finalement pour quel réel intérêt
C'est ça la question, c'est est-ce que tous les jeux qui vont sortir, alors ça c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est les développeurs, hein, c'est est-ce que tous les jeux qui vont sortir sur 3DS se doivent d'être en relief. Sinon ils peuvent sortir le jeu sur DS s'ils demandent pas trop de puissance et avec un parc installé qui est déjà là. Donc c'est toute la question, comme tu le dis, c'est vraiment intéressant ce que t'as souligné. C'est vrai que ces jeux-là, normalement, ils seraient meilleurs en contrôle direct au stylet, quoi.
Bah, franchement, alors le Ghost Recon, c'était évident. Ouais. On va continuer. On continue tout à l'heure sur les jeux. Il y a notamment les jeux Ubisoft. On a commencé un petit peu, et puis les autres jeux qui font partie de cette line-up. Mais on va recevoir tout de suite. Il était absent après 2 semaines d'absence. Il vous a manqué, j'en suis sûr. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, moi aussi je suis ravi de vous retrouver après ces 15 jours de coupure. Et pour célébrer cette reprise, j'ai décidé de vous parler d'une petite merveille. Un jeu répondant au nom de Skull and Roses. Un jeu signé Hervé Marly et édité par les éditions lui-même. Et bien sûr splendidement illustré par Mademoiselle Rose Kipik. Alors ce jeu est une merveille parce que d'abord il a été élu jeu de l'année 2011 par un jury haut en couleur, rempli de personnalités brillantes et au physique, ma foi, subtil et fin. Oui, vous l'avez deviné, cher monsieur Erwan, je fais partie de ce jury, donc je sais de quoi je cause. Donc, revenons à Skull and Roses. Skull and Roses est un travail de 10 ans. Hervé Marly a inventé un principe il y a une dizaine d'années et il a épuré au maximum pour arriver à une chose fine et subtile, pleine de merveilles et de finesse. Skull and Roses est basé sur le bluff pur. Donc, si vous n'aimez pas les jeux de bluff, passez votre chemin, allez voir ailleurs. Mais si vous aimez les bluffs, ce jeu va vous plaire. Donc, comment on joue ? Chaque joueur va avoir 4 tuiles, elles sont en forme de sous-boc de bière, c'est un côté assez plaisant, très bien illustré. Donc chaque joueur a 4 tuiles, sur 3 de ces tuiles il y a une rose, et sur une de ces tuiles il y a une tête de mort. On peut jouer de 3 à 6 joueurs. Donc chaque joueur va commencer par prendre une de ces tuiles, la choisir, et la poser face cachée devant lui. Donc il a pris soit une rose, soit une tête de mort. Et la partie commence, en commençant par le joueur actif. Vous avez deux possibilités, soit vous rajoutez une tuile que vous choisissez face cachée sur la première tuile que vous avez posée, soit vous faites une annonce, un pari. Si vous posez une tuile, le joueur suivant va avoir, lui, la possibilité de soit choisir une tuile lui aussi et de la poser face cachée sur la première tuile qu'il a choisie, soit de faire une annonce. À partir du moment où un joueur a fait une annonce, on ne peut plus rajouter de tuiles. On peut soit faire une annonce supérieure, soit passer, se coucher. Alors, quelle annonce fait-on ? On fait une annonce qui correspond au nombre de tuiles qu'on pense pouvoir retourner sans tomber sur une tête de mort. Et là, l'astuce consiste par le fait suivant. Quand vous faites une annonce et que tout le monde a passé et que votre annonce est acceptée, vous commencez par retourner d'abord vos propres tuiles. Et oui, mon cher Erwan, là vous avez compris le niveau de bluff. Parce que si vous avez fait une annonce élevée et que tout le monde passe et que vous avez mis vous-même une tête de mort et que vous retournez vos propres tuiles et qu'il y a une tête de mort, pim pam boum, vous prenez une tête de mort dans la tête, ce qui correspond à vous retirez une tuile de votre main et vous allez vous retrouver donc avec trois tuiles pour continuer la partie. Bien sûr, quand un joueur a réussi à remplir son pari, c'est-à-dire qu'il a dit par exemple je suis capable de retourner 6 tuiles sans tomber sur une tête de mort et qu'il y arrive, il a gagné la manche, il retourne un petit tapis qu'il a devant lui et s'il recommence une deuxième fois à faire un pari et à le remporter, il aura définitivement gagné la partie. Donc raconter comme ça, ça peut paraître un peu abstrait et incongru, mais je vous assure que une fois autour de la table, si vous avez avec vous des joueurs qui aiment le bluff, qui maîtrisent, qui sont de sacrés menteurs, si vous avez une capacité d'analyse de double guessing, c'est-à-dire je sais qui c'est, que je sais que j'ai mis une tête de mort, donc je vais le laisser passer, si vous aimez le frisson, si vous aimez se monter l'adrénaline, si vous n'aimez pas l'argent dans le poker parce que ça vous dérange, mais que vous aimez le bluff du poker, Skull and Roses est fait pour vous. C'est une bombe. Alors évidemment, si vous n'aimez pas le bluff, vous passez votre chemin, mais si vous aimez le bluff, courez, foncez, ça plaît à tout le monde. J'en ai fait des dizaines de parties, j'adore ça, j'adore mentir, j'adore mettre des têtes de mort et tuer les gens, et bien sûr, trouvez le point de bascule pour arrêter de mettre des têtes de mort et penser à gagner, parce que si on ne met que des têtes de mort tout le temps, on ne gagnera jamais. À un moment donné, il faut mettre des roses et partir en avant, faire un pari et essayer de le remplir. Donc, c'est un jeu qui s'adresse aux gens de 10 à 120 ans. Les paris vont durer une trentaine de minutes avec des joueurs standards et classiques, mais ça peut durer un peu plus longtemps avec des vrais, vrais bluffeurs très pointus. Le jeu coûte aux alentours de 15-16 €. C'est pas très, très cher. Il est magnifique. Si vous aimez les bluffs, courez, mon cher Erwan. Ce jeu est fait pour vous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall. En tout cas, moi, ça me fait bien envie. Moi, j'adore les jeux de bluff. Mon préféré jusqu'à maintenant, c'est Perudo. Perudo, un jeu de dés issu des pirates. Et j'aime bien ce côté bluff et tout ça. Skull and Roses, en tout cas, oui, ça me tente bien. La minute culturelle plus courte, hein, ça va faire plaisir à certains cytoplasmes. Voilà, merci, c'est mieux. On commence avec Lord Sinclair qui dit oui,
c'est lui.
C'est lui. Le stick analogique a été l'une des premières décisions matérielles pour la 3DS, mais le chef de projet 3DS de Nintendo a surtout justifié ce stick pour un jeu en particulier, le quel. Ok.
Un jeu sorti ou
non?
Non.
Non.
Bah, Mario.
Mario. Kid Icarus.
Eh bien non, il s'agit de Mario Kart, car le chef de projet 3DS est en effet Monsieur Kono, qui n'est autre que le chef de tous les Mario Kart récents.
D'accord, voilà. Bah, il a eu une bonne idée. Hein.
Il a une bonne idée. Alors, une petite question un peu spécifique. Alors, il s'agit d'un mec dont le pseudo est troll. Hein. Bon, il choisit hein, en même temps. Hein. C'est pas moi qui l'ai, c'est pas une insulte. Alors, en fait, il est rédacteur pour NintendoDomain.com et il signale qu'ils ont une rubrique qui s'appelle la Minute du Prof, qui s'apparente un peu à notre Minute culturelle nationale. Donc, si vous voulez aller voir, donc c'est NintendoDomain.com. Et entre autres, alors, il lui propose une question. Qu'avait de particulier le monde 3 de Super Mario Bros 3? Est-ce que vous en souvenez? Non, d'accord. En fait, il avait la forme du Japon. Ce monde 3. Et qu'avait de particulier la forteresse du monde 3 de Super Mario Bros 3? C'était au cas où vous aviez réussi la question précédente. Je suis absolument désolé. Eh bien, en fait, non, il n'y a pas d'idée. En fait, elle est située à l'emplacement de Kyoto, lieu du siège social actuel de Nintendo. Et enfin, une question où vous n'avez absolument aucune chance de répondre. Je vous préviens, comme ça, c'est sympa. Hein, c'est... Mmh. Ils font la tête. Hein, on n'est pas encore filmé.
C'est comme si les autres, on avait une chance d'y répondre aussi. C'est ça qui est...
quel est le lien entre Metal Gear Solid et Georgi Sviridov?
Je ne connais pas ce monsieur déjà.
Personne.
Ou c'est cette dame.
Eh bien, alors, l'histoire, c'est que Tapi Iwase est reconnu comme le compositeur du thème principal de la saga Metal Gear Solid, ou du moins, il l'était. En effet, suite à un entretien avec des journalistes russes, Hideo Kojima a eu la mauvaise surprise de découvrir que la musique de son jeu ressemblait étrangement à un morceau composé par Georgi Zviridov dans les années 70. La rencontre était filmée et dispo sur YouTube, si vous voulez chercher. Pour éviter toute poursuite judiciaire, Konami a arrêté d'utiliser ce thème à partir de Metal Gear Solid 4, même s'ils n'ont jamais reconnu avoir volé la musique du compositeur russe. Petite histoire très intéressante. Bien, celui-là, on ne vous en parlera même pas. Il est en train de se battre. Il s'agit de Pilotwing 3D, qui est grosso modo un espèce de mix entre le Pilotwing 64 et le Pilotwing de Wii Sport Resort.
Super NES. Hein.
Et oui, mais
enfin, Super NES, j'imagine. Ouais,
attention.
Mais voilà, il est en 3D, donc c'était.
Mais il y avait le mode 7 à l'époque.
Oui, le mode 7, le mode 7. Oui, parlons du mode 7. Non. on continue sur les jeux. Donc un des éditeurs à en sortir le
pourquoi,
plus.
Pourquoi on n'en parle pas?
Tu y as joué.
J'ai un peu joué, mais c'est vrai que c'est typiquement. Je vais aller très vite. Non, c'est vrai que c'est rigolo, mais sans plus, et que ça aurait fait un bon jeu fourni par défaut avec la machine.
Oui, c'est ce à quoi j'ai pensé moi. C'est un peu dommage d'avoir à acheter un jeu en plus pour avoir ce Pilotwing,
qui est assez simple,
qui est pas
un jeu extrêmement riche et complet.
Ouais. Parmi les jeux donc de la line-up, pas mal de jeux Ubi. Toi, il y a le Splinter Cell qui t'a pas mal séduit.
Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi c'est un des titres qui montre ce que la machine a dans le ventre en termes de réalisation. Et donc c'est en fait on retrouve l'épisode Chaos Theory qui était sorti donc en 2005, sur PS2, Xbox, PC à l'époque. Et voilà, je pense que c'est une bonne manière de se rendre compte de ce que la machine peut faire et de l'apport de la 3D, je pense, sur ce type de jeu.
C'est un remake alors ? C'est un remake.
Le Chaos Theory de l'époque. Et je trouve que sur certaines sections de jeu, on capte vraiment ce qu'apporte la 3D en termes de mise en scène lorsqu'on se plaque contre un mur pour regarder, etc. Alors pour l'instant, ça n'intervient pas directement dans le gameplay, on est bien d'accord, mais ça apporte un petit plus dans la mise en scène, je trouve, dans la gestion des caméras, etc. Je trouve que c'est
parce que c'est vrai qu'il faut pas, il faut parler parce qu'il y a c'est la 3D, mais on parle de 3D relief là. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a de la 3D relief qui sort de l'écran.
Mm-hmm. Très peu, hein.
Mais
très
peu. Et souvent, ça fait un peu mal au crâne. C'est les jeux quand j'avais joué à Amsterdam, là, le jeu de Tyrannosaure, là, mais qui est pas encore sorti.
Ouais, c'est sur le Rayman que j'ai vu quelques petits effets d'objets qui sortaient.
Surtout, c'est de la 3D qui est en profondeur et qui peut s'appliquer aussi à des jeux qui sont en 2D. Mais avec du relief en profondeur.
Ouais. Attention. Moi sur le Splinter Cell, je suis assez d'accord avec toi Patrick sur la. Il y a certaines scènes qui pourraient montrer ce que pourrait être un jeu intéressant utilisant le 3D relief et ce que pourrait apporter le 3D relief à ce type de jeu. Bon, moi d'une part, j'ai joué à Chaos Theory, donc l'intérêt pour moi de relancer un Splinter Cell et l'histoire et le gameplay et le machin me passe au-dessus de la tête. Enfin, je suis absolument désolé
mais ça me scandalise
qu'on sorte en 2011 sur une nouvelle console du remake encore une fois d'un jeu sorti. Et moi le Splinter Cell, il m'a aussi gêné parce que c'est comme si on dépassait déjà les limites de la 3DS en termes de puissance, parce que les mouvements de Sam Fisher sont quand même beaucoup moins bons que ceux qui étaient sur la Xbox et la PS2 à l'époque. Notamment, il suffit de le faire grimper.
Tu les as relancés, les versions de l'époque?
Non, je les ai pas relancés, mais je me souviens quand même qu'il s'accrochait à peu près correctement au truc. Et le faire grimper, mais ça arrive dès le début, le faire grimper face à une paroi ou un truc comme ça, on sent un truc approximatif dans la représentation. Alors bon, moi j'ai j'y ai joué, hein, et ça me déplaît pas. Moi, j'étais assez fan en plus de cet épisode Chaos Theory, donc j'ai un peu avancé. Et il y a certains passages qui sont intéressants, mais
ouais, mais en termes de, moi, j'ai trouvé que les effets de lumière étaient assez probants, notamment. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment plus sur une DS classique.
Oui, alors effectivement sur la fait puissance de console.
Je trouve qu'il est assez parlant.
Est-ce que t'as essayé le Rayman?
Oui, 3D. Alors moi, le Rayman, je l'ai fait sur 5 machines, je crois. J'ai dû le faire sur Dreamcast, sur N64.
Donc
c'est
un remake. C'est encore un remake aussi.
Et c'est le jeu original. Hein. Mais enfin, moi, j'ai trouvé que
le jeu 3D original.
Oui, le jeu 3D Rayman 2. Hein, ouais. On est bien d'accord, qui était sorti, je crois, en 99 sur PC et N64. Moi, j'aime bien le jeu. Enfin, je trouve qu'il est, que c'était un bon jeu de plateforme très typique de l'époque, hein, qui était vraiment dans la mouvance de Mario 64, etc. Donc qui était vraiment un bon titre à l'époque. Et je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. Enfin, on y joue toujours avec beaucoup de plaisir. Le gameplay est assez précis. Il y a pas de problème de je trouve de maniabilité. Il tourne bien. Moi, la 3D est pas fondamentale. Elle apporte un petit truc. C'est notamment sur ce titre que j'ai remarqué des petits effets. Justement, tu parlais tout à l'heure des éléments sortant de l'écran. J'ai eu quelques petites sorties d'images. Enfin, ou alors c'est moi qui. Mais j'ai vu quelques éléments sortir un petit peu. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et c'est un jeu qu'on refait avec plaisir. Enfin, que voilà, moi, je pense que ça peut être un bon jeu pour commencer. Pour voilà, les gens qui le connaissent pas, c'est un bon plan, je pense. Rayman 2, il est toujours aussi sympa.
Ça fait quand même bizarre d'avoir des jeux. Combien ils coûtent? Entre 40 et 50 euros. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Tu retrouves un jeu qui est 40-50 euros, un jeu qui a plus de 15 ans.
Exactement, moi c'est ce que je voulais.
C'est un recyclage quand même de luxe, mais un recyclage quand même.
Alors tu as essayé rapidement pour Ridge Racer aussi.
Ouais, Ridge Racer. Ouais. Alors il est rigolo. C'est un Ridge Racer typique, mais ce qui est plutôt une bonne chose, qu'on retrouve le gameplay de dérapage, etc., qu'on connaît depuis des années. Moi j'ai bien aimé dans le côté 3D parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sensation de distance avec les autres véhicules. Et je trouve que c'est assez marrant. Ce niveau-là.
Dans les jeux de voiture, on sent qu'il y a un fort potentiel de la 3D relief, en fait.
Hein. Je pense sur tous les jeux en 3D, les TPS aussi, les jeux en troisième personne, enfin, les jeux de voiture, les jeux en troisième personne sont, à mon avis, les titres qui ont le plus de chances de profiter de ce mode-là. Et sur le Ridge Racer, voilà, c'est ce qui vraiment m'a marqué, c'est qu'on a vraiment la sensation de passer à côté des véhicules, qu'on double, etc. Ouais. Et ça, c'est assez rigolo.
C'est vrai que c'est marrant, c'est que les jeux de voiture, t'as aussi parfois l'impression d'avoir une petite voiturette. Tu joues vraiment avec une petite voiturette.
Ouais. C'est vrai.
Et les TPS.
Les jeux de combat, j'ai l'impression de jouer avec des figurines. Hein. Street Fighter 4,
c'est marrant. De jouer avec une petite figurine.
Attention, Ridge Racer, c'est en vue intérieure uniquement. Attention. Ne surtout pas jouer en extérieur.
Mais par exemple, moi c'est pour ça que c'est pour ça que moi j'attends grandement aussi le Mario Kart, en fait.
Ouais, bien sûr, la démo qu'on en avait vu des démos tourner, c'était
et rapidement un peu peut-être l'échec le plus cuisant de ce lancement, Super Monkey Ball 3D.
Je l'ai pas eu. J'avais testé Amsterdam comme toi.
Ce qui est une aberration, hein.
Mais c'est soit les deux techno,
le gyroscope et la 3D relief sont absolument incompatibles.
Dès qu'on bouge, on perd la 3D. Il faut être bien en face de la console. Donc
et
c'est
puis
vrai
même,
que...
en fait, le Super Monkey Ball, c'est impossible de jouer en gardant la 3D, la DS fixe. Même quand on joue au pad, on a toujours tendance à bouger. Et moi, c'est sur Super Monkey Ball et sur d'autres jeux, il y a quelque chose d'étrange avec cette 3DS. En fait, la 3D, on l'aperçoit dans une position par rapport à l'écran,
assez
bien
limité,
en face
et tout ça.
Et en fait, le fait de jouer avec la 3DS, moi, ça m'a rendu un tout petit peu claustro, pratiquement. Comment dire ? C'est que il se crée en termes de sensations, il se crée une sorte de lien physique entre les yeux et l'écran
qui est pas hyper agréable
qui est pas agréable parce que on se retrouve sur une session de une heure et demie à être presque crispé sur la console pour rester bien dans l'axe. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un truc, c'est comme si on tenait la console avec les yeux, ce qui est pas hyper agréable.
Ça c'est le Virtual Boy
c'est peut-être
pour ça qu'au début, notamment quand tu lances Street Fighter, il te conseille de faire une pause de 10 minutes toutes les demi-heures.
Oui, bien sûr.
Quand
je jouerai à Dragon Quest 3DS, si je fais une pause de 10 minutes toutes les demi-heures, je vais 3 ans.
Vous avez eu tendance à repasser en 2D ou pas alors?
Moi, grandement.
Moi, je l'ai pas fait, grandement.
Ou à laisser la 3D pas à fond, parfois inférieure. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on est sur une. On n'est pas sur de la 3D dans son canapé avec l'écran qui est devant soi. On est quand même sur une console portable qui est censée être utilisée la plupart du temps en situation de portabilité ou de transport, et notamment dans le métro, moi j'essayais dans le métro ou dans le bus, quand tu bouges un peu, quand il y a un arrêt, quand il y a un truc, quand il y a du monde à côté de toi, d'habitude tu peux un peu bouger ta DS ou machin pour quand même continuer à jouer, là...
Donc là, ce sont des moments où tu es obligé de
repasser en 2D. Là, c'est des moments où tu es obligé de passer en 2D parce que sinon, tu n'as pas l'expérience du jeu.
En conclusion, en impression générale, après avoir joué donc, à cette 3DS, Patrick
moi, j'aime beaucoup la bécane. Et moi, je reviens sur le fait que la 3D, c'est vraiment trippant parce qu'on est en train de la découvrir sur la machine. Mais encore une fois, moi, je souligne bien que le hardware a changé, qu'à mon avis, ça ouvre des portes en termes de jeu, de conception. Et voilà, je pense que ça, il va falloir attendre pour voir ce que les développeurs vont pouvoir tirer de cette machine. Et il faut pas oublier qu'il y a aussi la gestion du déplacement de la console. Enfin, il y a un gyroscope.
Ouais.
Tout ça, ce sont des nouvelles features qui arrivent dans la machine et j'espère que les développeurs vont l'utiliser. Et voilà, enfin, je pense que ça ouvre des portes intéressantes pour les jeux à venir.
Clément,
moi je dirais wait and see. En fait, c'est que c'est une console effectivement très intéressante. Je pense que les jeux actuels, à part parfois, il y en a certains qui montrent bien la puissance de la console. Mais il faut voir son prix quand même. Elle coûte 250 €, ce qui est pas rien. Aujourd'hui, une DSi neuve peut se trouver sur le net en France pour 100 €.
On joue pas dans les mêmes.
Voilà. Et que bon, ceci dit, elle a la rétrocompatibilité avec tous les jeux DS. Est-ce qu'il faut faire le passage aujourd'hui? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est rigolo. En tout cas, l'effet waouh est là au début. Il est assez intéressant à partager. Tout le monde va rigoler. Et c'est clair que quand elle va sortir, il y aura vraiment un impact. Genre, tiens, regarde de la 3D sans lunettes. C'est rigolo. Moi, je conseillerais d'attendre sagement un jeu qui vraiment vous fasse craquer absolument. Et pour l'instant, moi, il y en a pas eu dans le line-up de lancement.
Moi, c'est à peu près la même chose, voire en pire. Alors, j'ai peut-être paraître un peu vieux con sur ça. Moi, cette line-up est quasiment un scandale. Enfin, c'est non, mais à la limite, sauf Super Street Fighter 4. Qui mérite son prix parce que voilà, c'est un vrai jeu, c'est franchement, on a eu Beyond Good and Evil HD pour 10 € sur le XBLA. Ce qu'on nous propose aujourd'hui sur la 3DS, c'est rien de plus que le travail qui a été fait sur BGE pour passer en 3D. Sauf que là, bah c'est pas en HD, c'est en relief. Je suis désolé, techniquement, c'est une technologie nouvelle, mais il profite de cet effet wow dont tu parlais pour nous revendre au prix cher que des trucs qui existaient déjà. Donc du côté de chez Ubisoft, il y a quand même un jeu, donc le Shadow Wars, le Ghost Recon Shadow Wars, qui est un jeu original, mais qui pose un problème. J'avais dit, on peut pas diriger ces unités au stylet, ce qui est aussi un souci. Pour le reste, ok, franchement, il y aurait eu cette line-up en version à télécharger sur une boutique 3DS à 10 € pièce, mais j'aurais été super d'accord. Et c'est cool, on a des jeux réédités avec l'effet relief, ce qui finira par arriver. Il y en a eu tellement qui sont sortis, finira par arriver.
L'aspect boutique,
mais
va
alors
développer,
pour l'instant, ça, moi, ça, j'ai pas. Je vais m'amuser avec. Ça va me faire plaisir de redécouvrir Rayman ou Nintendo Dogs, par exemple. Mais alors pour le reste, je suis presque choqué du côté remake avec juste ce 3D relief en plus.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, nos trois analyses qui sont un peu variées, elles ont quand même un point commun. Et c'est ce qu'on dit toujours, c'est que ce qui fait une machine, ce sont ses jeux. Voilà.
Exactement. Donc, et moi, le point, c'est maintenant, c'est il faut attendre le maître. Il faut attendre le maître. Il y a Super Mario 3DS qui a été annoncé début mars. C'est peut-être lui qui montrera peut-être ce qu'est capable de faire cette 3DS. En attendant, moi, je reste sur mes gardes. Voilà. Pardon. Mais j'étais vieux con sur le
un
coup.
Un peu solennel.
Non, c'est marrant, qu'effectivement, il y ait Patrick qui soit beaucoup plus enjoué, moi moyen et toi moins. Ça prouve aussi que.
Entre parenthèses, moins, dire, enfin, l'effet 3D,
ouais,
ça marche.
moi, je crois au hardware de la mécane. Enfin, tu as vu aussi le Resident Evil, on l'a vu tourner à Amsterdam. On a vu que la machine faisait tourner le moteur de Resident Evil 5 sans problème. voilà, on sait qu'elle en a. Bon, après, effectivement,
ah, mais je changerai d'avis dès qu'il y aura des jeux. Hein. Ouais. Ça, c'est j'en suis mais persuadé. Hein. C'est pas la console qui me choque. Hein. C'est les jeux d'aujourd'hui. Bah voilà, on en a fini avec cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Clément qui n'a pas révisé. Merde, j'ai fait quoi? Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Bon, je commence par toi, Patrick.
Oui, bah moi j'ai passé mon week-end dans les salles obscures, pour le meilleur et pour le pire. Je vous avais parlé du cycle Hammer au musée d'Orsay, donc j'ai enchaîné.
Ça c'est le meilleur, rassure-nous.
Un super film, Dr Jekyll et Sister Hyde, qui est fabuleux. Le cycle continue la semaine prochaine, donc super intéressant.
Sister Hyde, ouais.
C'est une perle, hein, vraiment. Puis le revoir en pellicule tournée, enfin c'est fabuleux. C'était un grand moment d'émotion. En revanche, du côté du vraiment du moins bon, je me suis fourvoyé à aller voir comment ça s'appelle, c'est Los Angeles attaque
World Invasion Los Angeles.
C'est vraiment le typique, le nanar, le mauvais, le nanar navrant.
Et je déconseille à tout le monde le jeu dont t'es tiré.
Ah, j'ai vu des choses, oui, il a pris des notes assez.
Qui est vraiment une catastrophe absolue.
Mais le film m'a fait pleurer. C'est vraiment le nanar, plein de fric, pas bon à éviter, vraiment. C'est
Clément
pas bien.
Alors, je suis allé au cinéma, mais je vais vous parler aussi, surtout, en fait, d'un documentaire qui est passé sur Arte, que moi j'ai vu en Arte Plus 7, donc dépêchez-vous de le voir en Catch-up TV. Sinon, le DVD doit être disponible sur la boutique Arte, qui s'appelle Notre Poison Quotidien. Alors c'est le premier documentaire que je vois de, je crois qu'elle s'appelle Maric Monique Robin, qui a fait des documentaires intéressants avant. Alors c'est très édifiant. On mange plus les mêmes choses quand on en sort. C'est bien, enfin il est vraiment très bien mené. Il n'est pas qu'à charge, donc c'est assez intéressant. Ça concerne surtout les pesticides, l'aspartame et le bisphénol A. Après, moi, je trouve que c'est tourné comme dans les années 80. Parfois, on a l'impression de voir, c'est mal tourné. Je trouve ça mal foutu au niveau organisation.
Dans les années 80, on tournait mal, c'est ça?
Non, mais t'as l'impression de voir, tu sais, le message à caractère informatif de Canal. Tu vois dans les plans, les machins. Genre, c'est des plans vraiment pourris. Par contre, c'est extrêmement bien écrit.
Ouais.
Les interviews sont très bien menées. Et c'est vraiment, vraiment édifiant. Et vous ne mangerez plus d'aspartame de votre vie. Et vous laverez grandement les produits que vous achèterez. Donc, c'est vraiment... notre poison quotidien.
Passé sur Arte et en rediffusion, et je pense que ça sortira sans doute en DVD. D'ailleurs, moi, c'est un documentaire que j'avais pas eu la chance de voir en salle parce qu'il est passé dans 3 salles, je crois, en France, quand il est sorti. Et il vient tout juste de sortir en DVD, c'est Les Arrivants. Les Arrivants, c'est un documentaire filmé façon striptease, donc sans voix off, sans explication. Et ça se passe dans un centre de la CAFDA. La CAFDA, c'est le centre d'accueil pour les familles demandeurs d'asile. Ça dure 1h30 et on suit tous ces gens, les assistantes sociales qui accueillent les gens qui partent de leur pays pour diverses raisons. Généralement, c'est torture, maltraitance, menace, ce genre de choses. Et ils arrivent en France et à la fin du documentaire, t'as un tout petit peu honte d'être français. Et tu te dis que même si on refuse l'entrée sur le territoire à ces gens-là, bah, le temps qu'on analyse leur dossier, ce serait peut-être pas mal de les recevoir au moins humainement, et ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui.
Et donc on peut le voir comment ?
Il vient de sortir en DVD, ça s'appelle D'accord. Les Arrivants, et franchement ouais, c'est magistral, enfin c'est très très fort. On se retrouve maintenant très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.